convertie à la foi chrétienne à l'âge de 36 ans, réfugiée politique et naturalisée française en 1989, je fais donc partie de ces personnes marquées par deux cultures et deux traditions spirituelles. Le Cambodge reste à tout jamais ma terre natale. Sa culture continue à m'accompagner sur la terre française. J'appartiens aujourd'hui au Christ, mais j'ai été structurée en tant que femme par la tradition bouddhique. Et cette tradition bouddhique constitue ainsi ma première demeure. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai refait ma vie en France. Je suis arrivée en France en 1980 en tant que réfugiée politique. Je peux dire que j'ai refait ma vie en France, mais permettez-moi de citer l'académicien François Schenck. Je vais le lire. Quand je me sers de l'expression courante « j'ai refait ma vie », ce n'est pas dans le sens d'un exilé qui, ayant choisi de vivre en pays étranger, cherche un travail pour continuer à vivre tout en restant dans la nostalgie de son passé, dans le souci de préserver son moi. J'ai refait ma vie signifie renaître à une vie autre, en tant qu'individu transformé. Renaître à une vie autre, ce n'est pas tirer un trait sur sa culture d'origine. Renaître à une vie autre, c'est laisser la culture d'origine entrer en dialogue avec la culture d'accueil. Laisser ma culture asiatique cambodgienne entrer en dialogue avec la culture occidentale française. Laisser la bouddhiste que j'étais accompagner la catholique que je suis aujourd'hui. Ce dialogue entre deux cultures, deux religions, me permet d'avoir une identité personnelle transformée. Cette transformation me permet de me penser comme un être muté. Je dis bien muté. Mes manières, mon rapport avec le monde se trouvent profondément modifiés au carrefour de deux cultures. Mesdames, Messieurs, à l'heure actuelle où l'identité fait rage dans notre France, je voudrais partager avec vous cette mutation vécue comme rupture et rencontre. Et je le fais à partir de mes expériences de femme. Femme immigrée, femme citoyenne, mais femme disciple de Jésus-Christ. J'aborderai en première partie la violence de l'immigration. Je formulerai quelques questions ouvertes sur le verbe intégrer. Et je terminerai par l'hospitalité culturelle et spirituelle. La violence de l'immigration. L'expérience migratoire est d'abord une expérience d'altération, faite de violences psychologiques. Je suis arrivée en France en tant que réfugiée politique en 1980. Mais sur la terre française, l'immigré que je suis a perdu ce que Albert Camus appelle l'accord de la terre et du pied. Tout immigré est convoqué ainsi à vivre une sorte d'étrangeté de soi-même. Et cette étrangeté de moi-même, à moi-même, m'amène à une prise de conscience très aiguë du sens de la culture donnée par l'UNESCO. Je me permets de lire la définition de l'UNESCO. La culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, le système de valeurs, les traditions et les croyances. La culture donne à l'homme la capacité de la réflexion sur lui-même. C'est elle qui fait de nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et engagés. Oui, mesdames, messieurs, beaucoup de facteurs vont être sollicités quand on est déplacé de sa culture native. Ce sont des facteurs qui ne laissent personne neutre ou indifférent, car ils touchent profondément notre affectif. Ce sont des facteurs qui nous affectent en tant qu'immigrés. La première est la plus courante de la violence psychologique que nous allons vivre en tant qu'immigrés. C'est d'abord la violence de la langue. Maîtriser la langue du pays d'accueil est l'étape essentielle pour tout étranger, que tout étranger doit franchir pour retrouver son équilibre. C'est l'étape nécessaire pour se faire respecter par les Français de souche. Des fois, j'ai dit les souchistes. Oui, il ne suffit pas de baragouiner le français. Il faut le parler jusqu'à pouvoir exposer ses idées et dire le plus profond de soi-même dans cette langue étrangère. Par conséquent, l'apprentissage de la langue ne peut pas être approché seulement comme œuvre de charité, réservée qu'aux associations caritatives. Un certain professionnalisme est nécessaire pour tout étranger qui arrive chez nous en France. La deuxième violence relève de l'identité. Les phénomènes migratoires ont donné naissance à l'identité qui se décline au pluriel. Une identité déstabilisante pour l'être social du migrant. Ce dernier ne sait plus dans quelle mémoire, quel héritage s'inscrit véritablement sa vie. Il se sent alors mal à l'aise dans son nouveau lieu de vie. J'ai subi ces tentations, toutes ces tentations sécuritaires parce que j'étais mal à l'aise dans le pays d'accueil. Et ces tentations, il y a des tentations sécuritaires qui épargnent ces peu des personnes à l'heure du métissage et du brassage de culture et de religion. Ces tentations provoquent des crispations qui s'interpénètrent. Je voudrais partager avec vous deux sortes de crispations. Il y a d'abord des crispations que j'appelle des crispations puristes. Le premier souhait de tout arrivant dans un groupe et d'être comme tout le monde, c'est le premier souhait. On veut être intégré à tout prix. Il faut arriver à être comme eux. Ça, c'est le premier souhait. Se conformer sans aucune originalité à la structure d'accueil, qu'elle soit citoyenne, citoyenne ou religieuse. Mais hélas, cela relève de la mission impossible pour nous autres, les Asiatiques. Sur le plan de la citoyenneté, notre faciès ne nous permet pas d'être français tout court. Les Français de souche ne voient en moi que l'Asiatique ou la Cambodgienne. Mais, mesdames, messieurs, faut-il crier pour cela au racisme ou au politiquement incorrect? Oui, il est certain que le regard des autres remet en question la compréhension que nous avons de nous-mêmes. Il nous met mal à l'aise. Il nous rappelle constamment notre différence. Et ces crispations puristes deviennent délicates, explosives, quand l'identité se fige dans l'appartenance religieuse. La deuxième crispation, c'est la crispation nostalgique. Elles sont à l'inverse des crispations puristes. Elles deviennent des crispations communautaires par réaction au nivellement identitaire. Mon faciès ne me permettra jamais d'être complètement comme eux. Je programme alors haut et fort ma différence. L'immigré va être alors otage de sa nostalgie. L'immigré a tendance à idéaliser à outrance les traditions de sa culture d'origine. Il fait d'autant plus facilement qu'il n'y est plus immergé. Lors de mes retours au Cambodge, j'ai remarqué que nous, les Cambodgiens de la diaspora, nous sommes beaucoup plus conservateurs que ceux qui sont restés au pays. Ces crispations font qu'on s'enferme dans ce que le philosophe Abdennour Bida appelle la malédiction de l'identité. Je le cite, je lis Abdennour Bida. Cette malédiction enferme tous les jeux dans le même moule. La tribu, identité ou communauté sociale forme un nous sans altérité interne, un nous où tous ont le même jeu. Alors, ces crispations suscitées par des tentations sécuritaires sont de temps pour moi des impasses à l'intégration. L'intégration. Je me permets d'ouvrir ici une interrogation sur le verbe intégrer. Le pape François, dans son discours du 21 février 2017 au Forum international Migration et Paix, a insisté sur le sens du mot intégration. Je lis le pape François. L'intégration qui n'est ni assimilation, ni incorporation, est un processus bidirectionnel qui se fonde essentiellement sur la reconnaissance mutuelle de la richesse culturelle de l'autre. Ce n'est pas l'aplatissement d'une culture sous l'autre, ni un isolement réciproque avec le risque de ghettoisation néfaste autant que dangereuse. Oui, j'adhère totalement à cette mise au point du pape François sur l'intégration comme processus bidirectionnel. Mais au fond de mon être et au fond de mon expérience de femme immigrée, je perçois l'intégration comme une condescendance unidirectionnelle qui ne respecte pas ma culture d'origine. car une question toute simple habite mon cœur d'immigré. Pour m'intégrer à la société française, faut-il me désintégrer de ma culture d'origine? Pour répondre à cette question identitaire, la Française que je suis aujourd'hui préfère le mot adoption. J'ai adopté la France et la France m'a adopté. Le mot adoption implique un espace de liberté indispensable à l'immigré. Il se sent ainsi respecté dans la totalité de son être. C'est une reconnaissance qui lui permet de grandir harmonieusement dans cette culture autre que celle de sa naissance. Donc, c'est là cette adoption ou l'espace à l'hospitalité culturelle et spirituelle. Alors, je termine en vous disant que j'aime beaucoup la langue française. Je l'aime autant que ce n'est pas ma langue maternelle. J'aime beaucoup la langue française qui désigne sous le mot hôte, celui qui offre l'hospitalité comme celui qui la reçoit. On voit là une réciprocité fondamentale. Ce processus bidirectionnel, souligné par le pape François. Mon hôte est alors celui que Dieu vient rejoindre aujourd'hui, comme le bien-aimé du cantique des cantiques vient visiter sa bien-aimée. Merci de votre bienveillance.